11h midi. C'est tout droit, présenté par Philippe Robichon et maître Mourad Serran sur Beurre FM.
Bonjour à tous, camarades auditeurs. Maître Serran est ravi de vous retrouver en ce dernier samedi avant le ramadan. Alors, un salut plus prononcé.
Alors, attendez, parce que maître Serran, votre micro ne fonctionne pas. Alors, essayez de rebrancher le...
Ça, je ouais. Retire et je remets.
Non, le...
Non.
Voilà, ce qui est sous votre micro, là. Voilà.
Alors...
Voilà.
Pourtant, j'ai touché à rien.
Ben non, mais...
Alors, est-ce que ça fonctionne?
Non, ça fonctionne.
Là, ouais, ça fonctionne?
Ça fonctionne très bien.
D'accord.
On peut remettre le générique.
On remet le générique.
On
part à zéro.
Maître Serran va recommencer sa chronique
c'est
depuis
chaud.
Le début, parce que c'est vrai que c'est embêtant de rater le début.
Ouais, c'est vrai.
Donc, on est reparti. Ouais.
11h midi, c'est tout droit, présenté par Philippe Robichon et maître Mourad Serran sur Beurre FM.
Donc, acte 2, bonjour à tous, camarades auditeurs, maître Serran est ravi de vous retrouver en ce dernier samedi avant le ramadan, alors un salut plus prononcé à l'égard de nos futurs jeûneurs. Je suis d'autant plus ravi d'être parmi vous que je me dois de vous préciser que pendant le ramadan et à la demande de mon patron, M. Philippe Robichon, nous n'aurons pas d'émission de droit les samedis durant cette période. Alors pourquoi me direz-vous ? Je n'en sais rien, demandez à ce vieux bonhomme. Mais ramadan ou pas, vous pourrez toujours me contacter sur le 06 62 58 59 64 ou m'envoyer un petit mail sur maître.serran@gmail.com. Et en attendant cette période pleine de spiritualité, vous êtes invité à nous contacter pour poser toutes vos questions en composant simplement le 01 53 48 3000. Mais avant de vous jeter sur votre téléphone, évoquons l'actualité de la semaine. Alors je pourrais vous parler de la constitutionnalisation de l'IVG, mais je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que je trouve particulier qu'au XXIe siècle, on se pose encore la question de savoir si une femme a le droit ou pas d'avorter. Mais bordel, que chacun fasse ce qu'il souhaite avec son corps, qu'on laisse les femmes tranquilles, précisons toutefois qu'il ne suffit pas qu'un droit soit reconnu ou protégé, encore faut-il qu'il soit effectif, et on sait que beaucoup de femmes sont parfois borderline sur le plan du timing pour avorter, faute de trouver un service prêt à les accueillir pour faire le nécessaire. Rappelons que l'IVG médicamenteuse est possible jusqu'à 7 semaines de grossesse et 9 semaines après le début des dernières règles, et l'IVG instrumentale peut être réalisée jusqu'à la fin de la 14e semaine de grossesse, soit 16 semaines après le premier jour des dernières règles. Rappelons également qu'un avortement n'est jamais un acte anodin pour celles qui le pratiquent. Mais laissons le corps des femmes tranquilles pour revenir. Et je dis revenir car j'en ai parlé la semaine dernière, pour revenir à la presque déclaration de guerre de notre président au tsar de toutes les Russies. Emmanuel Macron, président va-t-en-guerre, ne cesse de se la raconter, navré pour cette familiarité dès le matin, mais la France a-t-elle les moyens de ses ambitions guerrières? J'ai des doutes pour le moment. La France a fourni à l'Ukraine 3,8 milliards d'aides militaires depuis le 24 février 2022 et promet encore jusqu'à 3 milliards d'euros supplémentaires d'aides militaires. Et au moment où le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, déclare tranquillement qu'il souhaite faire 10 milliards d'euros d'économies en 2024 et doubler la mise en 2025, soit 20 milliards d'économies. Cela signifie concrètement que ce pays est prêt à sacrifier son peuple et son économie pour aider l'Ukraine. Quelle est donc cette dette imaginaire qui serait due par la France à l'égard de l'Ukraine? Je dois reconnaître que je n'arrive pas à comprendre la logique de nos gouvernants. Et enfin, je ne pouvais pas terminer cette passionnante chronique sans évoquer le génocide israélien qui continue à Gaza. Ainsi, les États-Unis ont, dans leur grande bonté, largué de l'aide par avion sur Gaza avec 38 000 repas. C'est quasiment le nombre de morts depuis la réplique israélienne. Alors merci les États-Unis pour ce geste plein d'amour, mais si vous pouviez cesser de fournir des armes à Israël, ces mêmes armes utilisées pour tuer les hommes, les femmes, les enfants, là ce serait une belle initiative. Allez, sur ces dernières paroles, je vous invite, chers auditeurs, à nous contacter sur le 0153 48 3000 pour poser vos questions. Émission sous le contrôle de M. Philippe Robichon qui, pour rendre hommage à Akira Toriyama, a désormais pour habitude de pratiquer le Kamehameha, référence à Dragon Ball Z, pour ceux qui n'auraient pas compris. À vous, maestro.
Maître Mourad Serran, votre dernière chronique avant le mois de ramadan.
Ok, mais s'il m'arrive quoi que ce soit,
Alors hein? après bon, on s'organisera.
Ouais. Et les obsèques et tout ça, c'est
tout, on s'organise.
Ah ouais,
on fait un truc bien.
Je vous remercie. Ouais. Vous êtes bien bon en fait.
Ouais,
j'avais des doutes, mais
non,
vous êtes un mec bien.
Non. On fera tout ce qu'il faut, Maître Serran.
D'accord, merci.
Bon, et puis aussi, c'est C'est bien aussi, vous voyez, d'éviter d'entendre des mots comme string, tout ça, pendant le mois du Ramadan.
D'accord. Donc, vous voulez passer des émissions chiantes à mourir pendant un mois.
Voilà, exactement. Sans string.
Sans string.
Ouais.
Ouais. Bah, on peut ne pas en mettre non plus.
Voilà. Donc, bon, je vous laisse avec responsable de vos dires, Maître Serra.
Ouais.
Non, mais non, c'est parce que vous voulez pas venir.
Mais j'ai pas dit je voulais pas venir. Est-ce que j'ai dit je voulais pas venir?
Oui.
J'ai dit que compte tenu du timing, c'était compliqué. Parce que les audiences continuent pendant le Ramadan. Alors, peut-être que vous ne le savez pas.
Ah bon?
Oui, mais les magistrats, ça ne les intéresse pas de savoir si Maître Serral leur dit, écoutez, je suis désolé, je dois partir parce que c'est
j'ai
Ramadan.
J'ai Ramadan.
Eh ouais, ça ne marche pas. Non. On n'est pas encore à ce stade avancé. Voilà, c'est-à-dire que je sais qu'il y en a beaucoup qui essaient de faire en sorte que ce pays s'islamise un grand max, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, en fait. Ouais, donc, ça va être un peu compliqué. Donc c'est pour ça que je préférais quand le Ramadan était à des heures un peu plus tardives.
Oui, mais là ça va, là on va dans l'autre sens. Hein. On va
bah oui, c'est ça le truc. Donc ça va être un peu compliqué, ouais.
Oui, prise d'antenne à 17h.
Alors, ouais, 17h.
Ouais. Ah ouais, c'est tout.
C'est chaud.
C'est tout pour tout le monde. Hein.
Bah oui.
Alors épineuse question, Maître Serran, que celle du déménagement intempestif de l'un des parents séparés. Un parent séparé a-t-il le droit de déménager?
Alors, un parent séparé a le droit de déménager, et je souhaitais évoquer le sujet, parce qu'on l'avait évoqué déjà il y a quelques temps, mais il faut savoir qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un changement dans le raisonnement des magistrats. La règle est la suivante. Nous sommes des parents séparés, alors que ce soit un divorce ou alors des couples non mariés, mais on a un enfant ou des enfants en commun et puis on ne vit plus ensemble, donc il faut bien que quand il n'y a pas d'accord particulier entre monsieur et madame, et quand le tribunal ou le magistrat a été saisi, donc il va rendre une décision pour dire qui va avoir, entre guillemets, le ou les enfants à plein temps. Dans 99,99% des cas, c'est la mère, c'est comme ça, et le père va exercer un droit de visite et d'hébergement. Et en règle générale, dans le cadre de cette première décision, le magistrat, quand il se prononce en fonction évidemment du domicile du père, du domicile de la mère, et puis quand on est au sein de la même ville, et voire même quand on est au sein du département, il est certain que la décision
ne peut pas
être la même si j'habite à Lille ou si et que monsieur habite à Marseille. Donc en règle générale, monsieur et madame vivent dans le même secteur. Je suis le magistrat, je rends une décision, et puis il arrive que monsieur ou madame, et là on va prendre en considération la situation de madame, c'est-à-dire celle qui le plus souvent exerce, enfin a les enfants au domicile à plein temps. Et donc si madame demain dit j'habitais à Marseille et puis monsieur habite dans le coin et voilà, moi je dois partir sur l'île, qu'est-ce qui se passe? Alors évidemment, ça bouleverse la vie de tout le monde, et très souvent, les juges avaient pour habitude d'aller dans le sens de madame, en disant, écoutez, elle a décidé de déménager, dont acte, maintenant ça va être plutôt à monsieur de s'organiser, et puis de faire en sorte, s'il veut voir ses enfants, éventuellement, parfois même d'aller les chercher, alors en train, en voiture, ce que vous voulez, et puis de les ramener. Donc, il y avait un déséquilibre qui n'était pas très sympa à l'égard des pères, et on s'est simplement rendu compte que les mentalités aidant, et puis à force de demander l'égalité homme-femme, il est certain que l'égalité doit se faire aussi à ce niveau-là. Les magistrats ont tendance maintenant donc à prendre en considération le motif pour lequel la mère décide, entre guillemets, de déménager et puis d'aller à des kilomètres du domicile initial. Les caprices, entre guillemets, de madame, si je puis utiliser ce terme, ne sont plus pris en considération. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, madame disait, écoutez, je dois déménager parce que ma famille habite là-bas. Bon, on considérait que si la famille de madame habite là-bas, donc ce serait, entre guillemets, légitime qu'elle démissionne, qu'elle déménage. Donc ça, c'est terminé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le magistrat veut un motif sérieux. Et le motif sérieux, c'est quoi? Le motif sérieux, c'est l'aspect professionnel. Donc il est certain que si madame arrive à démontrer qu'elle déménage pas pour embêter monsieur, pas pour que monsieur ne puisse plus exercer son droit à l'égard de ses enfants de manière régulière ou de manière fréquente, mais si elle démontre qu'elle fait ça pour le boulot, qu'elle a cherché dans le secteur et qu'elle n'a pas trouvé, et que la seule possibilité c'est de déménager pour travailler, le magistrat peut le comprendre, et même si monsieur est fâché et ressaisit le juge pour dire « attendez, il y a un problème », le juge aura tendance, et là on peut le comprendre, à donner raison à madame. J'ai dans un dossier pour lequel je défendais monsieur, madame avait demandé justement, alors non pas son argument c'était pas de dire écoutez j'ai trouvé du travail à X kilomètres, c'était de dire j'ai été muté à X kilomètres. Là encore, les magistrats avaient pour habitude de dire, bah écoutez, c'est une mutation, donc il y a pas de difficulté. Sauf que aujourd'hui, les juges, et là en l'occurrence, et on était content, madame a été déboutée, les magistrats considèrent que qu'il faut une raison sérieuse, c'est-à-dire qu'il faudrait démontrer que ce n'est pas madame qui, entre guillemets, en sous-marin, a demandé à sa société de la muter à tel ou tel endroit. Alors, soit pour aller rejoindre sa famille, soit éventuellement pour aller rejoindre une personne avec qui elle désirerait refaire sa vie. Donc il faut montrer patte blanche pour que le juge accepte ça. Et en l'occurrence, dans ce dossier, le magistrat a eu la bonne idée, puisque madame préférait rejoindre son nouvel ami, le magistrat a considéré que les enfants seraient, dans ce cas, en l'occurrence deux enfants, ne seraient plus à plein temps avec madame, mais vont rester avec monsieur, puisque les enfants sont scolarisés, les enfants sont habitués à un certain cadre, et c'est madame, qui peut aller où elle veut, qui va maintenant faire le déplacement pour venir voir ses enfants. Donc, et ça, c'est assez nouveau dans l'esprit des juges. Auparavant, on partait du principe que c'est madame qui s'occupait des enfants et rien d'autre. Voilà, c'était comme ça. Ensuite, qu'elle déménage de manière légitime ou pas, on s'en foutait. C'est madame qui s'occupait des enfants. Les juges, maintenant, prennent en considération, et c'est tant mieux, d'abord la situation des gamins, mais ils prennent aussi en considération la vie du père, légitimement, et c'est normal. Et donc, on a des décisions qui commencent à tomber où les juges disent à madame, vous souhaitez déménager, mais dans ce cas, les enfants, alors sous réserve évidemment que monsieur soit en capacité de s'en occuper et ainsi de suite, on les laisse pas à n'importe quel prix, mais à partir du moment où monsieur met en avant le fait qu'il est en capacité de s'occuper des enfants à plein temps, les juges n'hésitent pas maintenant à dire, dans ce cas-là, les enfants resteront avec monsieur.
Alors donc là, ils ont revu le droit de visite et d'hébergement.
Et les
donc est-ce qu'il y a eu un nouveau jugement?
Ah oui, il y a toujours un nouveau jugement en la matière, c'est-à-dire que il y a une règle, que ce soit dans le cadre d'un divorce ou que ce soit dans le cadre d'un couple qui vit en union libre, les décisions qui concernent les enfants sont toujours provisoires, c'est-à-dire qu'on peut toujours revenir devant le juge. Alors, évidemment, avec des éléments nouveaux. Si il y a une pension alimentaire et puis vous trouvez que la pension alimentaire du côté de monsieur est trop élevée ou madame dit, mais attendez, il paye pas suffisamment, il faut revenir avec des éléments financiers nouveaux, en disant, il a un nouveau boulot ou alors moi, madame, j'ai perdu mon travail. Donc, toutes les décisions qui concernent les enfants sont toujours des décisions provisoires. Vous pouvez à tout moment saisir le juge aux affaires familiales et demander au magistrat de prononcer, en tout cas de se prononcer sur les nouveaux éléments et de rendre une nouvelle décision.
Quel est le délai pour prévenir l'autre du déménagement?
Alors, d'abord, les juges prennent ça en considération parce que très souvent, madame... Alors, pareil, je ne veux pas faire de généralité, comme disait l'imam tout à l'heure, toutes les femmes du pays ne sont pas tordues. Mais on a eu beaucoup de dossiers où monsieur vient vous voir pour dire, écoutez, madame me dit qu'à partir de la semaine prochaine, donc elle va déménager à tel endroit. Encore une fois, auparavant, les magistrats considéraient que, c'était pas si grave. Sauf que maintenant, les juges considèrent que si vous avez un projet de déménagement, ça se fait pas en un week-end. C'est-à-dire que madame a eu l'information il y a bien longtemps. Et ça aussi, c'est pris en considération dans la notion de bonne ou de mauvaise foi. Il est certain que si vous ne prévenez pas monsieur et qu'en gros, vous le mettez devant le fait accompli, comme on mettait les magistrats devant le fait accompli, en disant, bah écoutez, maintenant, moi, je suis installé, je peux rien faire d'autre. Et les juges avaient aussi cette mauvaise habitude de dire, bah écoutez, on va pas maintenant chambouler la situation. Donc, c'est un critère qui est pris en considération. Donc, il faut que madame puisse, alors, soit par l'intermédiaire des avocats, soit, il faut qu'il y ait une trace écrite, hein, un mail, un SMS, un courrier recommandé. Il faut que madame prévienne, et on va dire, il n'y a pas de délai officiel, mais il faut compter, allez, on va dire une trentaine de jours pour que monsieur puisse quand même essayer de s'organiser à son niveau. Et si c'est pas fait, les juges maintenant sanctionnent et prennent ça en considération.
Maître Serran, alors profitez du standard de Beurre FM pour poser vos questions à Maître Serran, 01 53 48 3000, avant la coupure, hein, Maître Serran. Donc voilà, profitez de sa présence amicale et chaleureuse, 01 53 48 3000.
C'est au droit, reviens dans un instant. Beurre FM, 11h midi, C'est tout droit, présenté par Philippe Robichon et Maître Mourad Serran.
Voilà, ils sont tous là au standard, Maître Serran au 01 53 48 3000 et nous avons Roger qui nous appelle. Roger est à Toulouse. Bienvenue Roger.
Oui, bonjour.
Ah, alors on va
bonjour
régler
Roger.
Le son.
Oui, c'est bon.
Ah ouais, c'est bien, c'est presque bon. Comment allez-vous Roger?
Ça va, très bien, le soleil un petit peu.
C'est vrai, il fait beau à Toulouse.
Oui. Le jour, il fait bon. Après, bien sûr, la nuit, il fait noir. Mais le soir, ça se gâte. Tous les soirs, hier soir, il nous a fait un orage.
Bon. Alors, quelle est votre question à Maître Serran,
Roger? Oui, Maître Serran, bonjour.
Bonjour, Roger.
Philippe, bonjour. Dites-moi, je viens vers vous. Parce que j'ai un petit ennui avec un pays proche, l'Italie. Voilà, je suis d'origine italienne, mes parents, et ma mère, je suis allé une année dans ce pays, et elle avait, de la terre. Hein, de par héritage, et elle a été sollicitée par un voisin au village qui avait besoin, bon, qui était un berger, qui avait besoin de ça leur est arrangé de rentrer en possession de ce terrain pour pouvoir l'utiliser pour le passage de ces animaux. Et partant de là, bon, on s'est concerté avec ma mère et mon épouse, bon, qui elle n'était pas trop intéressée par ça. Enfin, bon, tout était qu'on l'a vendu. Et de là, on a placé l'argent, les 8 dixièmes à la caisse d'épargne qui s'appelait Casa de Espagno, et qui étaient les mêmes conventions qu'en France, hein, c'était un livret que j'ai toujours en possession, et puis l'autre moitié, on l'a placé sur, disons, un fonds commun dans un autre organisme. Voilà. Au bout de ça, c'était en 78. En 2001, je voulais à peu près voir, j'étais malade, je voulais à peu près voir ce qui pouvait en être, et j'ai appelé. Et je me suis rendu compte que la Casa di Espagno n'existait plus. Bon, m'entendez, maître?
Ah oui, allez-y, on vous écoute.
Voilà, n'existait plus. Tout ça, j'ai dû trafiquer quand même avec Internet, voilà. Et je suis tombé sur notre organisme. Voilà, on m'a dit oui, effectivement, la Casa ne n'existe plus, et qui était national, quoi. Et là, vous êtes un organisme privé, et bon, ça portait un autre nom. Bon, oui, alors j'ai dit, voilà, moi j'ai un compte qui a plus de 30 ans, et un livret, et j'aimerais savoir, voilà, je donne le numéro, tout, la dame retrouve. Hein, j'avais quelques difficultés à comprendre à parler l'italien, je le comprends. Et bon, elle me dit, écoutez, on avait quelques difficultés. Elle me dit, je vous rappelle cet après-midi, hein, à partir de 2h, parce que j'aurai une traductrice. Oui, c'est elle qui vous prendra. Bon, en fin de course, la traductrice m'explique que, vu que là, mon livret était caduc, vu que je n'avais fait aucune opération, depuis X temps sur le compte.
Ça faisait 23 ans, en fait, parce que c'était 78, donc 2001, ça fait 23 ans.
Ouais. Bon, alors, moi, je suis resté là, parce que, bon, c'était ma mère, elle voulait jamais que son père ait été enflé. D'autre part, on nous a appris de la terre aussi, des cousins en famille, ça a disparu, ben, enfin. Mais quand même, j'ai dit, là, ça m'a toujours turlupiné, c'était quand même son héritage, et moi, c'est mon devoir de quand même, c'est pas par intérêt, hein. La somme était coquette quand même, parce qu'on avait rempli le livret maximum, quoi. Bon, après, il y a eu les intérêts qui se sont... c'était par capitalisation. Bon, là, et maintenant, c'est pas la question de perdre tout ça, mais c'est la question, disons, de pas l'honneur aussi de maman. Mais elle n'a jamais pu en profiter, la pauvre femme. Là-bas, le terrain, c'était mon oncle qui est décédé aussi. Maman est décédée aussi. Mais bon, ils ont retrouvé le compte, tout. Oui, ils m'ont pas donné la somme qui aurait, lorsqu'il a été caduc. Mais voilà. Alors, maître.
Alors, attendez, parce que Roger, là, c'était en 2001.
Ouais, 2001,
là,
oui.
Là, on est en 2024. Qu'est-ce que vous avez fait depuis 23 ans?
J'ai laissé courir.
Ah oui, parce que ça fait une paire d'années, quand même, mine de rien.
Oui, mais...
votre volonté, Roger, c'est quoi, là, concrètement? Au moment où je parle. Donc, ça fait X années où il ne s'est rien passé. Et donc, la nature de votre question, c'est quoi?
Ma nature de la question, c'est de comment, au niveau même européen, parce que là, je ne sais pas, par intermédiaire d'un avocat, ou de récupérer, mais afin de faire valoir quand même ce que maman avait.
Alors, bon, autant sur le territoire français, on sait comment ça fonctionne, autant en Italie, je vous dirais des bêtises, ouais. Roger, parce que je sais pas si, entre guillemets, la loi italienne prévoit, ça me semblerait surprenant, mais bon, un timing à partir duquel l'argent légitime des membres de la famille ne pourrait plus être récupéré. J'ai beaucoup de mal à y croire, mais ce serait peut-être une spécificité italienne, vraiment sous toute réserve.
Attends, maître. Oui, la dame, ce qu'elle m'a répondu, elle m'a dit que c'était parti pour une caisse des personnes âgées, pour la bienfaisance.
Oui, voilà. Enfin, c'est-à-dire qu'en gros, on récupère cet argent, et l'argent, donc, aurait été pris par l'État, et après, ils en font ce qu'ils ont envie. Alors, on a l'équivalent sur le territoire français, quand à partir du moment où il n'y a pas de d'héritier, où il n'y a personne. Bon, voilà. Donc ça, on peut l'entendre et le comprendre. Mais là, c'est pas le cas. Donc, soit ils ont ou ils n'auraient pas eu l'information. J'ai des doutes. Dans ce cas, d'abord, ce qui serait bien, monsieur, c'est parce que vous me dites qu'il y a une personne qui vous a dit ça. Est-ce que on vous a dit ça oralement? Ça a été confirmé par écrit? Ça s'est passé comment concrètement?
Pas du tout. Verbalement au téléphone.
Ouais. Donc c'est il faudrait quand même. Alors, soit au sein de cette institution, mais vous me dites qu'a priori elle a disparu, mais il doit y avoir l'équivalent.
Elle a carrément dit la Casa di Espagno.
D'accord.
Elle n'existe plus, et c'était l'équivalent du livret de caisse d'épargne rouge ou du livret de la poste. Hein?
Alors, il doit y avoir l'équivalent d'une banque de France, c'est-à-dire une banque centrale qui doit par définition centraliser toutes ces informations. Donc, il faudrait quand même, pour être certain d'avoir quelque chose de concret, en tout cas un écrit, écrire à cette institution, monsieur, avec votre identité et puis toutes les précisions. Et dans l'hypothèse même où il serait amené à vous confirmer ce qui vous a été dit oralement, mais encore une fois, j'ai des doutes, mais sous toute réserve, hein, je suis pas un spécialiste de la loi italienne. Vous, votre question est de savoir que dans l'hypothèse, enfin, si vraiment ça allait dans ce sens-là, qu'est-ce qu'au niveau européen vous pourriez faire? Alors, il faut savoir qu'au niveau européen, monsieur, si vous étiez amené à contester ce type de situation, alors d'abord, renseignez-vous quand même pour voir si les procédures ne peuvent pas se faire en Italie. Vous voyez, avant de taper au niveau européen, faudrait peut-être, mais un avocat sur place aurait plus de compétences que moi en la matière. Donc il faudrait déjà voir si, sur le plan du droit italien, est-ce que c'est, entre guillemets, autorisé ou pas. Mais dans l'hypothèse, imaginons deux secondes, que dans l'hypothèse où ce serait autorisé, et là je vous rejoins, il serait pas inutile de diligenter effectivement une procédure au niveau européen, parce qu'on est dans ce qui s'appelle quand même, entre guillemets, de la spoliation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, s'il y a des héritiers, récupérer cet argent et dire bah désormais c'est l'argent de l'État, sans à minima vous prévenir, alors en disant écoutez, j'ai n'importe quoi, mais cher monsieur, il y a une somme d'argent, la loi nous dit que si au bout d'un an, enfin voilà, après tout dépend des conditions, si cet argent n'est pas utilisé, effectivement l'État pourrait le prendre. Mais si vous n'êtes prévenu par aucune institution et que vous apprenez du jour au lendemain que cet argent est désormais dans les poches de l'État et puis ils en ont fait ce qu'ils avaient envie, on peut se poser la question effectivement si au niveau européen ce serait pas contesté ou contestable.
En France, hein, ça va à la Caisse des dépôts et consignations.
Complètement. Hein. C'est pour ça, je sais pas s'il y a...
Si le compte est inactif depuis 10 ans.
Ouais, complètement. C'est, donc. Mais là, je sais pas s'il y a un équivalent. Enfin, j'imagine qu'il doit y avoir un équivalent, mais honnêtement, voilà, il vaudrait mieux peut-être poser la question à un avocat sur place ou à un juriste sur place qui, par définition, en saura beaucoup plus que moi.
Il y a des organismes, hein, qui permettent de retrouver, la trace de l'argent s'il est encore quelque part.
Ouais.
Voilà, Roger, ce qu'on pouvait vous dire. Mais enfin, 46 ans, quand même, 46 ans après, ça fait quand même, il doit y avoir des intérêts, hein,
ça fait, ça doit faire des sous, là, quand même.
Ouais, 46 ans d'intérêts, ça doit faire beaucoup de sous. Est-ce qu'on a le temps de prendre alors on a le temps de prendre un autre auditeur. On a Elias qui est avec nous. Elias, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour, Elias.
Bonjour, Elias.
Bonjour, maître Ferran. Bon, on vous souhaite la longue vie, hein, dans ce secteur.
Ah, merci, Elias. Bah, voilà. Ça me fait plaisir.
Vous faites appeler votre famille.
Oh, j'en serai là.
Non, c'est pas cool, maître Ferran. Le cousin Elias.
Au fait, j'ai un petit conflit avec la banque. Donc, ma banque, donc, du coup, j'avais un compte depuis longtemps. Donc, on a changé de banque quand on a eu un crédit. Donc, eux, ils ont rien proposé. Et on a changé de banque. Et entre-temps, j'ai fait une boîte que j'ai pas utilisée parce que vu la corona et tout. Donc, et je l'ai pas mis en sommeil. Je l'ai laissé. Mais j'ai toujours fait le nécessaire. Sauf que à plusieurs reprises, quand j'ai voulu récupérer mes documents, ou bien les relevés de compte sur l'application, j'ai été bloqué, je les appelle, il reste 2 mois, ils ne m'envoient rien. Du coup, les impôts, ils font un saisi. Donc après, je règle l'histoire. Donc, mais il n'y a aucun truc qui est chelou, où j'ai rien fait avec cette boîte. Donc, du coup. Et dernièrement, je voulais faire marcher. J'ai un associé avec moi et tout. Et du coup, j'étais voir la banque et je me suis énervé. Je dis, c'est pas normal que j'arrive pas à avoir mes relevés. Il faut que je vienne vous voir. Et en plus, c'est plusieurs fois que vous me dites que vous allez rappeler. Du coup, voilà, on a monté, mais poliment. Donc, il n'y a rien eu. Mais je voyais que la directrice de l'agence, vous voyez qu'il y a un problème. Donc, je sais très bien. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de racisme, mais ce n'est pas grave. Du coup, depuis la demande du crédit, pourtant, on a une très bonne situation, moi et madame, et aujourd'hui, on est propriétaire d'une maison et d'un appartement. Et du coup, je n'ai rien dit. Donc, sauf que j'ai pris un rendez-vous. J'essaie de prendre rendez-vous. J'ai réussi à prendre rendez-vous que hier. Et en allant la voir, j'étais en Tunisie pendant 2 jours. Elle a fait un truc. Donc, elle a envoyé des courriers. Du coup, elle m'a passé dans une comité. Ils veulent fermer ce compte. D'accord? Donc, moi, j'ai dit, peut-être, ils ont raison. Bah, c'est vrai, il était en débiteur, mais j'ai toujours relancé. Je dis, écoutez, on s'arrange. Parce qu'à chaque fois, à chaque relance, ils m'envoient, moi, comme ce mois-ci, il y a 200 € de pénalité. Je comprends rien. Je dis, écoutez, bon, ok, je paye les 2/3 et on règle ça et on part à 0 plusieurs fois. Donc, même par message sur l'application. Du coup, il n'y a rien fixé. Donc, elle a pris la décision, madame la directrice. Elle voulait fermer mon compte pro. Il n'y a pas de souci, mais sauf que j'ai de comptes joints qu'avant, quand on l'a fait pour prendre le crédit, ça n'a jamais abouti. Du coup, j'ai un compte depuis que je suis en France à LCL. Et j'ai même 3-4 comptes pour mes enfants. Il y a, là-dessus, il y a 15 000 euros au minimum. Donc, et j'ai jamais eu de problème. Sauf que, voilà, l'attitude de cette dame, c'est arbitraire. Elle a abusé de son pouvoir. Elle a voulu fermer mon compte et elle a fermé même les comptes perso. Est-ce qu'elle a le droit de faire ça?
Alors, c'est toute la difficulté avec les établissements bancaires. C'est-à-dire qu'en vérité, ils ont le droit. C'est-à-dire que quand bien même... ce serait pas, comme dirait l'autre, vous mettez pas en péril la situation de la banque, mais ils ont le droit de considérer que vous n'auriez pas, entre guillemets, respecté les conditions, que vous n'auriez pas été dans leur sens. Et c'est vrai qu'un établissement bancaire a le droit de faire ça. La seule possibilité, c'est-à-dire que si on considère, vous voyez, par exemple, une société qui ferait ça sur le compte d'une concernant une entreprise, et s'il y a vraiment des conséquences à la suite de la fermeture de ce compte, une société pourrait dire attendez, j'ai un préjudice, et donc on se retourne contre la banque. Mais là, en l'occurrence, on a affaire à des comptes de particuliers. Donc malheureusement, j'allais presque dire, cet argent allait le placer ailleurs, mais il y aura pas de recours particulier contre l'établissement bancaire, même si c'est scandaleux.
Elle a pas justifié.
Non, c'est toute la difficulté avec cette profession de rapace.
D'accord. Merci. Et que Dieu te protège. Enfin, franchement,
merci.
Vous avez trouvé les mots. Voilà. Allez.
À bientôt, Inch'Allah.
Au fait, Inch'Allah, c'est pas question. Moi, je suis dans d'autres banques, il y a un problème, mais voilà, j'ai senti une injustice.
Non, mais c'est une injustice, on est d'accord. Ouais. C'est une injustice.
Ouais, bon. C'est pas grave.
Elle a outrepassé son pouvoir. Merci, Elias. Allez, d'autres appels pour Maître Serran ce matin au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
Beurre FM. C'est tout droit. Reviens dans un instant. Beurre FM, 11h midi, c'est tout droit, présenté par Philippe Robichon et Maître Mourad Serran.
Alors, je pense que Nafissa est avec nous. Nafissa, bonjour et bienvenue.
Bonjour Philippe,
bonjour Serran. Bonjour Nafissa. Vous allez enlever le haut-parleur ou le kit main libre. Comme
voilà,
ça.
Voilà, c'est bon.
Ah, c'est formidable. On vous écoute.
Bon, ben, nickel. Alors, moi, je vous appelle parce que j'ai déposé une demande de carte d'identité pour ma fille, donc au mois de janvier, qui avait 6 mois. Donc voilà, j'ai déposé une demande de carte d'identité.
Alors, c'est compliqué, Nafissa, de bien vous entendre. Essayez de bouger un peu.
Ah, attendez.
Parce qu'on a compris le début. Donc, vous avez déposé une demande de pièce d'identité pour votre fille de 6 mois, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
Voilà.
Ouais, on entend.
Donc, là, c'est mieux?
Oui.
Voilà. Et donc, en fait, enfin, voilà, mais sauf que même pas une semaine après, j'ai la mairie qui m'a rappelé pour me dire que le dossier est bloqué en préfecture. Donc, voilà, je leur ai demandé la raison et tout ça. Ils m'ont dit qu'ils voulaient le certificat de nationalité de la petite. Donc, ça, voilà. Alors que je suis française, par filiation, ça fait plus de, je crois, 100 ans, la famille. Et le papa aussi, il est français, du coup, par déclaration. Et en fait, c'est pour savoir, est-ce qu'ils avaient le droit, du coup, de refuser de faire ces papiers ou pas?
Le droit de refuser de faire les papiers, non. Enfin, la règle est simple en la matière, elle n'a pas changé. À partir du moment où l'un des parents est de nationalité française, de facto, la nationalité se transmet à votre enfant. Donc, l'enfant peut obtenir son document sans aucun problème. Mais c'est, on vous donne une explication, c'est motivé, on vous dit quelque chose par rapport à ça?
Alors, en fait, ce qu'ils nous disent, c'est que c'est la nouvelle loi immigration. Donc, j'ai cherché, j'ai pas trouvé cette loi. Et en fait, que les parents sont nés à l'étranger. Donc, moi et le papa, on est nés à l'étranger.
Non, mais quand bien même. Alors, d'abord, la nouvelle loi immigration, il faut savoir qu'au moment où on se parle. Alors, la loi, il y a une loi qui a été votée, mais les décrets d'application ne sont pas encore signés. Donc, mais indépendamment de ça, que à partir du moment où vous êtes de nationalité française, que vous soyez né sur le territoire français, que vous soyez né à l'étranger, on fait pas de distinguo sur, entre guillemets, la qualité de super français ou de français moyen en fonction de votre lieu de naissance. Vous êtes française de naissance ou pas, ça n'a pas d'incidence. Ce sont les mêmes conséquences. Donc j'ai du mal à comprendre, à partir du moment où vous justifiez que l'un des parents est bien de nationalité française, j'ai du mal à comprendre, entre guillemets, ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils veulent. Mais cette information, vous l'avez obtenue comment? On vous a passé un coup de fil? On vous a envoyé quelque chose?
En fait, c'est la mairie. Ouais. Ben, c'est la mairie qui m'a appelée pour me dire que voilà, que je suis passée pour bloquer en préfecture. Et en fait, il me demande le certificat de nationalité, mais sauf que, enfin, c'est un an et demi pour le sortir, le certificat de nationalité à Bobigny. Donc,
ça vaudrait peut-être le coup. Bon, ils vous ont passé un coup de fil dans le tac, mais ça vaudrait peut-être le coup d'aller d'aller sur place et de demander un peu plus de d'informations. Et de rappeler, même si j'imagine qu'ils le savent, que vous êtes de nationalité française. Donc le, j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on on demanderait ce type de document.
Voilà. Et j'ai même proposé de ramener du coup mon certificat de nationalité à moi, ouais. Et même celui du papa. Ils m'ont dit non, on veut celui de la petite.
Parce que vous avez raison, c'est-à-dire que la à partir du moment où vous faites la demande de certificat de nationalité française, alors que vous allez obtenir, il n'y a pas de difficulté, mais au niveau de timing, c'est toujours un peu long.
Oui, c'est super.
Voilà. Alors, il y a une urgence pour cette pièce d'identité, pour l'enfant ?
Pardon ?
Là, pour votre enfant, vous considérez qu'il y a une urgence pour lui faire cette pièce d'identité rapidement ou pas ? Ou c'est juste comme ça ? Ouais.
En fait, j'ai pris les billets et tout ça pour aller au bled.
D'accord.
Voilà, c'est pour ça. Et c'est pas la laisser.
Mais bon, alors en parallèle, faites quand même la demande de certificat de nationalité française. Mais bon, je sais que ils attribuent pas ça dans le mois qui suit, quoi. C'est toujours assez long.
J'étais là mardi au tribunal d'instance de Bobigny. Ouais. On dit là, on traite les dossiers de juillet 2023.
Ah ouais, d'accord. Ouais, bon.
Ouais. Voilà, c'est encore loin.
Ouais, c'est toute la difficulté. Bon, voyez quand même avec vraiment, je crois qu'il vaut mieux aller sur place avec la mairie et voir précisément ce qu'il en est.
Ouais,
et bon, dans l'absolu, si la réponse qui vous est apportée et vous la trouvez entre guillemets plus ou moins bizarre, passez-moi un coup de fil si nécessaire, il n'y a pas de difficulté.
Ah ok, il n'y a pas de souci. Ben, merci beaucoup en tout cas.
Je vous en prie.
Merci beaucoup, Maître Serra. Merci. Au revoir.
Merci, ça. On accueille Sarah qui est avec nous. Sarah, bienvenue.
Bonjour. Allô ?
Bonjour, Sarah.
Oui, bonjour. C'est Farah, c'est pour ça que je ne me suis pas reconnue, je suis désolée.
Ah, c'est Farah.
Farah.
Oui, avec un F.
Ouais, parce que Farabelle, ça ne fait pas.
Ouais, c'est pas pareil.
C'est pas pareil.
C'est ça. Ouais. Du coup, moi, je vous appelle. Je ne sais pas si c'est une question à laquelle vous pouvez me répondre, mais c'est vrai que je suis un peu perdue. En fait, j'ai consulté un médecin il y a 6 mois, donc c'était au mois d'août. J'ai eu deux consultations, j'ai fait deux consultations avec l'espace d'une semaine. Et depuis, moi, je suis pas quelqu'un qui va sur le site Amélie ou quoi, qui vérifie ou quoi. Entre-temps, j'ai perdu ma carte vitale, mais j'ai pas cherché, parce que j'ai pas consulté d'autres médecins ou quoi, donc j'ai même pas fait attention. Et là, il y a à peu près 2 mois, j'ai refait une demande de carte vitale, donc je l'ai bien reçue à la maison, etc. Et j'ai reçu un courrier de l'assurance maladie il y a une semaine, me disant que j'ai déclaré avoir perdu ma carte à telle date, mais que depuis, j'ai eu avec le même numéro de carte, j'ai eu des consultations chez tel médecin, et me demandant est-ce que c'était moi. Et donc, assez curieuse, je vais sur mon relevé... avec toutes mes consultations, et je me rends compte qu'en fait, ce même médecin, il a fait comme si j'étais allée chez lui durant le mois de septembre, octobre,
d'accord,
novembre, et jusqu'au mois de mars. J'ai aussi 2 consultations au mois de mars. Donc, je ne sais pas, est-ce que je peux faire quelque chose ou qu'est-ce que je dois faire.
Y a des affaires comme ça où on a eu des consultations fantômes de la part de médecin. Alors je dis pas que c'est lui spécifiquement au sein de son cabinet, mais oui, il faudrait quand même à minima le signaler à l'assurance maladie, et puis à partir du moment où vous considérez, en tout cas où vous expliquez que vous n'êtes pas concerné par ces visites, il va avoir le bonheur de recevoir un contrôle sérieux, voir un peu ce qui se passe, parce qu'en règle générale, quand on fait ça avec
vous pouvez le signaler
bien sûr
faire un signalement,
oui,
sur
c'est
médecin.
Normal.
Mais, voilà. Mais normalement, quand vous déclarez une carte vitale perdue, ça la désactive.
Sur le courrier que j'ai reçu de l'assurance maladie, c'est bien notifié. Il y avait 3 choix. Donc, soit est-ce que c'est vous qui l'utilisez alors que vous n'avez plus le droit d'utiliser, ou alors vous l'avez perdu. Et sinon, c'était c'est l'usurpation. Et du coup, moi, j'ai pas encore répondu. J'ai rien fait. J'ai vérifié avant, mais il a bien utilisé. enfin, en tout cas, je sais pas comment est-ce qu'il a fait. Est-ce que c'est avec cette carte vitale en question que j'ai perdu ou non? Mais j'ai bien le relevé avec tous les rendez-vous que je n'ai jamais dit.
Bah, vous présentez ce document-là. Encore une fois, on va considérer qu'effectivement il y a une difficulté et qu'on est peut-être qu'on a affaire à une escroquerie. Et puis ils vont vérifier d'ailleurs si il y a une seule personne qui est concernée ou si c'est un cabinet qui a pour habitude de, encore une fois de créer des patients fantômes, comme on dit. Donc et à partir de là, c'est la Sécu qui fera le nécessaire pour demander à ce médecin d'apporter une explication.
Oui, le remboursement. Sauf si elle a perdu la carte chez le médecin en question.
Ah non, mais ils vont bien vérifier tout ça, de toute manière. Mais il faut commencer par ça.
Bien, Maître Serran. Merci.
Eh ben, écoutez,
merci. Passez un bon ramadan.
C'est très solennel, tout ça.
Merci. Ouais. Bon, au nom des auditeurs de Boris, merci. Et on vous retrouve, Inch'Allah, après le mois du ramadan.
Inch'Allah. Voilà. Mais... Il est certain que si, entre-temps, on peut négocier une prime, je viendrai, je ferai l'effort de venir pendant le ramadan.
Non, c'est bien. J'ai compris et je vois que vous avez avancé dans votre introspection. Maître Serran sur Beurre FM, merci d'avoir été avec nous. Passez un très bon week-end sur Beurre FM.
Retrouvez C'est tout droit tous les samedis de 11h à midi en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.